48 FM.
Les Street John au couloir numéro 2. Allez, les Street, c'est parti pour les Street John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, t'as remarqué, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Vous êtes bien, Péro ?
La qualification pour la demi-finale de la Coupe de Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.
Allez, bonjour à tous, bienvenue pour ce 21e magazine d'Instant Sport, votre émission d'actualité sportive qui décrypte les résultats sportifs lausériens, nationaux et internationaux avec nos trois chroniqueurs présents, bien installés toujours. Alors aujourd'hui, petite nouveauté pour cette intro, eh bien nous allons présenter nos chroniqueurs en musique. Alors journaliste sportif à Midi Libre et coach de l'équipe féminine du basket cosmondois, Luc Crespon, bonjour.
Bonjour Ludo, bonjour tout le monde.
Mais quelle victoire ce week-end.
Extraordinaire.
Allez, parle-nous un peu de cette victoire. Combien de points d'écart là?
19, me semble-t-il, 58-39. Votre 19, ça va faire ça.
Tu es le queen du basket.
C'est un peu simple.
Excellent.
Ça. Ce sont plutôt elles, les reines.
Les reines qui sont...
Pas moi. Ouais. Les Rennes sont toujours dernières par contre.
Voilà, le classement toujours dernière. Allez, une même musique maintenant pour nos deux autres chroniqueurs ici présents. Et oui, une musique suite au formidable match de ce vendredi de Marseille contre Lorient. Patrick Biancone et Laurent Julien, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour tout le monde.
Alors, c'était beau hein, ce vendredi, on aurait dit le cirque du soleil.
Ouais, mais on se régale. De toute façon, je maintiens. On a passé un super moment.
Avec Paris, tu te régales, mais en plus, ils gagnent.
Hein. 8 buts, qui dit mieux, messieurs, sur un seul match.
Ça faisait depuis 1980 que Lorient n'avait pas encaissé 5 buts ou plus à domicile.
Ouais. Il faut quand même reconnaître que Lorient est une bonne équipe. Donc, j'ai plus ou moins de regrets sur ce match.
L'amitié entre La Brune et Ferry, le président de Lorient, voilà, a fonctionné à plein.
Et un formidable Jordan Ayew.
Une formidable équipe de Lorient qui est 18ème.
Une formidable défense marseillaise, égale à elle-même.
Et ça laisse des espoirs pour les prochains matchs parce que on part à zéro, donc on peut que augmenter.
Je n'ai qu'un regret finalement, c'est que la Coupe Intertoto n'existe plus.
Oui, c'est vrai. Non, mais grâce à Paris, ils vont être qualifiés en UEFA et ça, c'est pas mal.
Exactement.
Ouais, ça, c'est beau. Allez, on redevient sérieux maintenant. Principale actualité de cet instant sport, on en parlera tout à l'heure. Stéphane Sora ne sera plus l'entraîneur de l'équipe 1 de l'AFL l'an prochain. Alors, on va revenir bien entendu longuement dessus en fin de première partie d'émission, mais on commence par le basket. On vient d'en parler, victoire de Mende contre Saint-Christol, les Alès 58-39. Alors, pour une fois, on va nommer les marqueuses Gerbal 3 points, Pagani 13 points, Tricouard 19 points, tout comme la capitaine Céline Hay qu'on a reçue ici. Avec 19 points, Rab 2 points, Mathias et Marciac 1 point, et Karine nous a fait une Luc Crespon avec 0 point. Mais l'important est le résultat. Alors si les filles restent dernières, c'est une victoire, Luc, qui permet d'espérer.
Oui, c'est une victoire qui permet d'espérer. Il faudra gagner le dernier match à Kono samedi prochain, ce qui va être compliqué, Kono qui sont, les filles de Kono qui sont deuxièmes.
Comment on appelle les habitants de Kono?
On les appelle pas en général.
D'accord, non, c'est les habitantes.
Et les habitantes, comment les appelle?
On les appelle pas.
D'accord.
Voilà, non, sinon à part ça, c'était en plus une équipe très remaniée avec des joueuses absentes. Mais du coup, donc Marina Carri qui met 0 points, mais en fait, une bonne raison c'est qu'elle était blessée et donc elle a très très peu joué. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle était là pour compléter un peu l'effectif.
Elle a pas fait Luc Crespon, elle a fait Laurent Julien.
C'est
blessée, elle joue.
C'est ça, elle est blessée, elle joue, mais l'avantage au basket c'est qu'on peut. Pour rentrer, sortir. Donc voilà.
Au foot aussi. Hein.
Non, mais c'est bien. C'est bien que le coach trouve la clé tactique en fin de saison. Quoi. Donc,
c'est bien.
Voilà, ouais. c'est...
Moi, c'est que je suis un peu bordélique, je perds souvent mes affaires. J'avais perdu la clé tactique. Bon, ben, c'est bon, je l'ai retrouvé. Ça devrait
non, aller. C'est rassurant quand même.
C'est le money time, Patrick.
C'est voilà, ça, exactement.
C'est le money time. Non, elles ont fait un super match en plus, dans tous les sens du terme. Vraiment, très très bon match. Et voilà, pour la petite histoire, on a été arbitré par un ancien joueur professionnel qui s'appelle Ken Dancy, qui est un Américain qui a joué de nombreuses années à Limoges et qui a aussi joué à NBA.
Dancy, Queen.
Ouais. Et c'est très drôle parce qu'avec son accent américain, on comprend à peu près rien à ce qu'il disait. Donc voilà.
Il est grand.
Ah oui, super, très très grand.
Ça devait être impressionnant. Là, t'as pas pris de faute technique.
Là, je peux t'assurer que t'es sur le banc, tu dis rien. Il siffle le truc, et oui, monsieur. Alors, parce qu'en plus, il est grand, il est impressionnant, puis il en impose, tu vois. C'est le mec, quand il vient te dire un truc, tu dis oui, monsieur l'arbitre.
Oui. Quelque chose que j'ai pas vraiment compris, au goal à virage particulier, donc vous devancez Saint-Christol, mais vous êtes derrière au classement.
Voilà, c'est un peu compliqué, c'est des histoires de en fait je crois qu'on est trois équipes à égalité là au même nombre de points et alors ils font une espèce de mini championnat, c'est un truc totalement alambiqué, en deux ans je n'ai absolument pas compris comment ça se passe. Donc voilà, donc oui, on est derrière Saint-Christol parce que c'est pas le particulier qui compte, c'est le goal average entre les trois équipes qui ont le même nombre de points. Enfin bref.
Est-ce qu'il y a moyen de se maintenir ?
Oui, voilà. Je pense qu'il y a moyen de se maintenir.
Si vous gagnez,
il va falloir gagner. Après, il va falloir sortir. Après, il va falloir faire confiance à la Fédé parce que moi, j'avoue que. Mais ça va être très compliqué quand même. On va pas se leurrer, on va pas se voiler la face. Ça va quand même très 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 compliqué.
D'accord, ok. Quel est le programme ? Donc un seul match.
Un seul match.
Un seul match à Kono.
Samedi prochain à Kono et les garçons eux jouent samedi prochain à Aigues-Mortes. Littoral Camargue pour le dernier match de la saison aussi.
De toute façon, les garçons, c'est fini. Hein.
Les garçons, c'est fini, oui. Ça, par contre,
ok. Alors,
on n'a pas de doute.
Pour eux, c'est fini également. En élite, 7e journée, play-down ce samedi. Le Mans Volleyball est allé s'imposer à Charenton, 3-7 à 2. Alors, une belle victoire à l'extérieur, mais une victoire d'autant plus rageante que Caudry s'est fait surprendre à domicile par Brive, 3-7 à 1. Mais au final, Patrick, ça ne change rien pour le MVL. Je vais rappeler le classement avant que tu prennes la parole.
Ouais.
On va partir de la fin. Dernier, Villefranche, 11 points. Brive, 15 points, 7e. Mende, premier relégable, dernier relégable, 15 points, 6e. Caudry, donc, qui a perdu, est à 19 points, mais il reste qu'un seul match. Charenton, Mérignac, Grenoble et Paris, premier. C'est un peu rageant.
C'est une victoire pour l'honneur, une belle victoire à l'extérieur. Bon, il faut signaler quand même que l'équipe de Charenton était mathématiquement sauvée. Donc, bon, certainement une équipe un peu en roue libre. Ça fait râler parce que tu vas descendre alors que tu as largement les moyens de te maintenir. Tu aurais pu tout jouer sur le dernier match si tu avais gagné 3-0 ou 3-1 puisque c'est vrai, à la surprise générale, Caudry s'est incliné en marquant 0 points sur son terrain. Bon, c'est dommage. C'est compliqué de analyser le parcours de cette équipe. Si tu regardes le classement dans le détail, ils ont autant de victoires que Caudry. Ils ont même autant de victoires que l'équipe qui est juste devant Caudry.
Charenton
en l'occurrence. Et tu vas quand même descendre. Et même si tu vas plus loin, si tu pars depuis la première phase, tu as même plus de victoires que certaines équipes qui vont se maintenir. Donc c'est un championnat qui est fait comme ça. C'est la spécificité du volleyball. J'ai pas de souvenir équivalent dans un autre sport où c'est-à-dire que tu vas gagner plus de matchs que certaines équipes, mais au final tu vas quand même descendre. Bon, ça paraît complètement loufoque qu'une équipe qui gagne moins de matchs que toi va se maintenir. Mais c'est comme ça. Encore plus râler.
C'est totalement ubuesque. C'est complètement ubuesque.
Il y a aucune logique là-dedans.
Gagner contre les grosses équipes finalement ne sert à rien. Donc voilà, on peut gagner contre le leader. C'est dans ce championnat, c'est typiquement le match qui sert à rien. Donc faut peut-être se poser la question du bien fondé de cette façon de faire, parce que j'avoue que faire descendre une équipe qui a plus de victoires qu'une équipe qui se maintient,
on a les boules parce que Mende est...
tout à fait.
Comme ça, mais si ça avait été l'inverse, on aurait dit, bon, la règle, elle est pas si mal que ça, quoi.
On est pour la justice, nous, Laurent.
Non, mais cette histoire de mettre des victoires, 3 points, 2 points, 1 point, si tu fais des 3-0, du 3-1, 3-2.
Ça, c'est bien.
Bon, ouais. ça c'est bien, paraît logique, c'est une bonne idée. Bon, après, ces histoires de plusieurs phases, tout ça, bon, c'est vrai que c'est un peu alambiqué. Il y a des clubs qui sont sauvés depuis 2-3 journées. Bon,
pourquoi ne pas repartir avec les compteurs à zéro et puis, voilà. Donc, bon.
Oui, on le dénonce régulièrement dans cette émission. Alors, ce mode de calcul est...
Et donc, pour continuer sur...
Vas-y, Luc.
Sur ça, j'ai croisé Christian Bartier, donc le président du comité départemental de volley qui est membre du Mans de volley Lozère. Alors qu'il m'a bien confirmé que Même si il doit y avoir des repêchages, il y a très peu de chances que le MVL soit repêché, même en tant que premier non relégable.
Pourquoi ?
Alors, ils vont faire d'abord chercher des équipes de N2.
Privilégier les montées.
Voilà, ils privilégient les montées. Donc, ils vont d'abord, comme ça avait été le cas pour le MVL l'année dernière, ils vont aller chercher des équipes de N2. En gros, il faudrait qu'il y ait 4 désistements pour que le MVL assure son maintien. En élite l'année prochaine. Voilà.
C'est possible, parce qu'il y a beaucoup de clubs de N2 qui ne veulent absolument pas entendre parler de la N1. Parce qu'en N1, ben, tu as vu ce que Mende fait, hein, ils vont à Caudry, c'est à côté de Valenciennes. Et il y a beaucoup de clubs de N2 qui, N2, c'est plus régional. Alors que là, c'est vrai, au niveau des déplacements, ça change absolument tout. Donc, il se peut quand même qu'il y ait pas mal de clubs de N2 qui refusent de monter. Et il peut surtout y avoir. Il y en a déjà des clubs professionnels qui mettent la clé sous la porte et donc qui vont redescendre immédiatement au niveau amateur. Et donc ça a déjà commencé avec Saint-Nazaire. Il y a Arne qui est en Pro B qui arrête aussi le niveau professionnel. Donc ça fait déjà 2 clubs pro qui stoppent. Et il y en aura certainement d'autres parce que les clubs de volleyball sont dans une situation financière totalement dramatique, la plupart des clubs.
Alors, attends, parce que Patrick, tu dis qu'il y a des clubs qui pourraient refuser de monter. Mais ouais. Je croyais qu'en début de saison...
Non, c'est en élite.
On demande
aux clubs de qui jouent en élite s'ils voudraient
monter au niveau professionnel.
En professionnel, c'est juste pour ça. C'est parce que t'as un vrai changement de statut.
De N2 à N1, on te demande pas à ton avis.
On te le demande pas au début de saison.
On te le demande qu'en début de saison, est-ce que si vous montez en Pro B, vous accepterez la montée? Parce que ça, c'est quand même un vrai changement. Parce que là, pour le coup, ce qu'on disait la dernière fois, t'as que des joueurs professionnels. Donc c'est un vrai impact. Monter N2, N1, ça a moins d'impact financier que...
Parce que de monter de N2 à N1 en élite, tu n'es pas obligé d'avoir des contrats pro. Bon, il y a certains canons, mais tu n'es pas obligé. Mais par contre, le gros changement dans ton budget, c'est au niveau des déplacements. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de clubs qui ne prennent pas le risque de monter parce qu'ils ne veulent pas justement partir... quand tu vas jouer à Caudry le samedi, il te faut partir le vendredi. Parce que si tu pars le samedi matin, tu sais déjà que tu prends 3-0. Ouais. Tu n'as aucune chance. Donc voilà, nuit d'hôtel, les bus, etc.
Et quand tu as des contrats pro à N1 et que tu descends à N2, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben tu les as plus, je crois. Tu peux plus les signer. Il faut vérifier ça.
Alors, je ne sais pas si c'est le cas à Mende.
Non, je crois pas qu'il y ait de contrats pro.
Non, il n'y en a pas.
Ils ont probablement des joueurs qui sont salariés du club, mais c'est différent.
Ouais.
C'est différent. Ils sont en tant qu'éducateurs, donc ils sont pas licenciés, ils sont pas joueurs de volley professionnels.
Mmh. Ok. Ok, mais on va suivre ce dernier match. C'est où ? C'est à Charenton.
Non, c'est à domicile. C'est à domicile. Voilà, c'est contre Villefranche en Beaujolais, donc qui est dernier au classement. Et donc c'est samedi, ce samedi, dernier match de la saison.
Il faut quand même faire un 3-0 pour être sûr de finir 6e, pas se faire doubler par Brive.
Exactement.
Donc tu fais bien quand même le prendre au sérieux, mais
tu fais bien de le signaler.
Si vous nous écoutez,
voilà.
Ok, j'ai pas vu les résultats des filles. Quelqu'un sait les seniors? Je suis pas sûr qu'elles jouaient. C'est pour ça, on va essayer de se renseigner. Football. Avant de parler des résultats sportifs, c'est quoi cette vilaine cheville, Laurent?
C'est un petit duel, un début de match avec un joueur du Valdo, et voilà, j'ai laissé une partie de mes os.
L'arbitre a sifflé Koufran, donc.
Si, l'arbitre a sifflé Koufran, mais
contre Laurent.
Contre moi.
Ah ouais. Tu vois, voilà.
Et ouais, non, mais c'est. Bon,
c'est faut dire que la cheville de Laurent est dans un triste état, mais par contre, les deux jambes de son adversaire sont attaquées au rayon des souvenirs.
Non, encore à ce moment-là, il était.
Les arbitres se font plus avoir, parce que toutes les fois, tu dis waouh. Après, au final, ils se disent bon, non, il n'y a rien.
J'ai quand même justifié auprès de l'arbitre que je ne pouvais pas avoir mis une semelle. Vu que la semelle de l'adversaire était sur ma cheville.
Ouais, mais est-ce que tu t'es pas taclé toi-même aussi?
Pas encore.
Le résultat, vous avez fait combien?
3-3 au Val d'Aunès.
Bon match, c'est vrai.
Ouais, c'était un bon match.
Nombre de chevilles qui a gagné?
Aux chevilles, ça a été très correct, un petit peu engagé, mais c'était un beau match.
Allez, on va parler de Marvejol avec une mauvaise opération ce week-end. Marvejol qui a été tenu en échec un but partout par Emargue. But pour Marvejol, Donadi à la 39e contre 100. Quand, avant cela, Emargue avait ouvert le score à la 4e par Martin. Alors avec ce match nul, Emargue reste leader, c'est pour ça que c'est une mauvaise opération pour Marvejol. Emargue 54 points premier, Marvejol second avec 51 points, donc toujours 3 points d'écart. Troisième, Rochefort. Quatrième, Aigues-Mortes. Cinquième, Saint-Privat. 49 points, avec un match de moins. Donc, ils peuvent remonter et passer devant Marvejols, etc., etc. Patrick,
Marvejols, en fait, est troisième. Parce que là, il y a une équipe qui a gagné, en fait. Et,
Donc, Saint-Privat, qui avait un match
de moins. Saint-Privat a perdu. Saint-Privat a perdu, mais ils sont quand même troisième. Je sais pas, il faudrait voir le classement.
Il manque peut-être un match parce que
c'est Rochefort. C'est Rochefort qui a gagné, donc Rochefort passe.
Je sais pas si dans les classements on a compté le match de Saint-Privat qui avait été arrêté. Je crois que c'est a eu un match arrêté là.
Mais là, ce week-end, Saint-Privat a perdu, mais c'est Rochefort qui a gagné, donc.
Double mauvaise opération là.
Voilà, donc Marvejols est troisième. Bon, c'était le match au sommet, on l'avait dit, contre Emargue qui était leader. Alors, ce qui est marrant, c'était ces deux clubs qui se connaissent bien, qui étaient en PHB ensemble, donc qui ont gravi finalement les échelons quasiment en même temps. Et il y a beaucoup de liens d'amitié entre les dirigeants d'Emargue et les dirigeants de Marvejols. Bon, Marvejols avait fait cette demi-finale de Coupe Lozère le week-end précédent, avec une intensité physique inhabituelle. Il y avait quelques légères blessures, des gars qui étaient un peu, et donc ça explique aussi ce mauvais début de match. Et Marvejols a été cueilli à froid. C'était compliqué de se remettre dans le coup après un tel match de la semaine précédente. Il y a quand même toujours un petit espoir, si tu regardes bien, c'est hyper serré. Ils reçoivent encore la semaine prochaine à domicile. Je crois que c'est je sais plus contre qui c'est Rodillan, je crois. Donc tout est possible, mais bon, Marvejols fait quand même une saison exemplaire.
Bah, c'est vrai qu'on l'avait dit, c'est un petit peu le problème de Marvejols d'avoir un effectif qui était un peu ric-rac, un peu restreint. Alors du coup, effectivement, pour jouer sur tous les tableaux, faut pas oublier cette demi-finale de Coupe de France, de Coupe Gare-Lozère, ils vont faire la finale de la Coupe Lozère. Ils sont toujours dans le haut du classement. Voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, force de tirer un peu sur les organismes. Si on rajoute à ça des suspendus, des blessures, c'est un peu compliqué.
C'est comme la division d'honneur, il reste combien de matchs là? 4, 3?
Non, il y en a moins.
Il en reste deux, je pense.
Ouais.
Il reste deux journées en première division aussi, je crois.
Voilà.
D'accord. Donc
il reste deux matchs.
Ouais. Ça reste, c'est possible, mais ça reste compliqué. Voilà. En tout cas, comme tu l'as dit, Patrick, une très belle saison, un très beau parcours en coupe, un beau parcours en championnat.
Il faut féliciter Marvejols, tous les dirigeants, tous les joueurs, vraiment de cette superbe saison.
Marvejols qui peut encore amener la Coupe Lozère
contre le NL.
En finale.
Le 14 mai.
Le jeudi de l'Ascension, c'est ça.
14 mai.
Voilà, et féliciter parce que c'est vrai que l'année dernière, en fin d'année dernière, on ne donnait pas nécessairement cher des chances de Marvejols de bien figurer en championnat. Et franchement, ils font une super saison.
Alors, vous parliez de l'ENL. L'ENL, par contre, poursuit sa route vers le titre de champion en division honneur régionale Auvergne. Dimanche à Saint-Chély, un parcours sans faute, toujours l'ENL qui bat Moulins 3-0. Alors, il a fallu quand même attendre la seconde mi-temps pour ouvrir le score avec des buts de Corentin Bonnefoy à la 55e, Bastien Rua 65e, Fred Gaillard 75e. Alors, c'est bien, toutes les 10 minutes en seconde mi-temps, on marque un but. Donc, au classement, l'ENL qui est bien en tête, premier avec 63 points. Clermont 3 qui a 54 points, Laurent.
Voilà, donc avec 9 points d'avance à 4 matchs de la fin, si au prochain match le NL gagne, aura toujours 9 points d'avance si Clermont gagne aussi, et donc sera officiellement champion avec 9 points d'avance à 3 matchs de la fin.
On sait où il joue la semaine prochaine ?
Non.
Non, très bien. Non. Ouais, j'ai pas vu aussi. En tout cas,
à l'extérieur, je crois.
Il reste plusieurs matchs, donc même s'ils gagnent pas la semaine prochaine, ils peuvent encore gagner la
semaine prochaine.
Il y a des matchs en retard, alors est-ce que les matchs en retard vont se jouer avant ? Parce qu'il y a des équipes qui ont quand même un ou deux matchs de moins par rapport.
Hein. Ouais, mais ils peuvent pas même pas. Ouais, non, mais pour, à la
au niveau
place.
Du calendrier, donc ça peut.
Bon, après.
Ça peut décaler quoi.
Je pense que la victoire contre Pont du Château a. Quasiment ouvert la semaine dernière, a quasiment ouvert les portes de la DHR.
Pont du Château qui a perdu ce week-end à Clermont.
Ouais, voilà,
donc il y a vraiment plus de.
Christophe Richaud lui estimait qu'il voulait continuer l'invincibilité de ses joueurs et de son équipe jusqu'au match contre Clermont, justement. Je me demande si c'est pas le prochain match d'ailleurs. Voilà, pour être sûr et pour après pouvoir fêter ça.
Enfin, s'il monte pas, ça serait une très très grosse surprise.
Honnêtement,
ça paraît impossible.
Pour l'avoir eu la semaine dernière, le coach, je le sens et je crois que les joueurs le sont aussi complètement concentrés là-dessus. Ils se sont pas désunis, même si, même s'ils ont un peu fait la fête, ils ont un peu, ils étaient très soulagés dans le vestiaire d'avoir gagné contre Pont-du-Château. Je les sens pas dans le discours, du moins, prêts à lâcher ouais. du lest.
En plus de ça, il y a très peu d'équipes en France qui vont perdre 4 matchs d'affilée. Actuellement, j'en connais qu'une et malheureusement, je la connais bien quoi.
Par contre, quand elle perd, elle
perd. Ouais, on
peut féliciter Marojol, mais on peut bien évidemment féliciter le NL. Bon, une descente, là, on repart sur une super dynamique, une saison exemplaire, une remontée en DH pour l'année prochaine, une finale de coupe Lozère, justement, contre Marojol. Ça va faire un match explosif. En plus, sur les crènes de Jean-Jacques Delmas-Amande, ça promet un spectacle vraiment de toute beauté pour ce jeudi d'Ascension.
Ouais, c'est vrai que c'est bien pour les garçons de l'ENL de pouvoir remonter comme ça de suite après la désillusion de l'année dernière.
Et c'est important également Lozère d'avoir deux équipes en division d'honneur si jamais l'AFL ne monte pas, il reste en division d'honneur d'en avoir deux sur deux régions différentes, parce qu'on sait que l'ENL est en région Auvergne.
En même temps, si on en a une en CFA2 et une autre en DH, c'est pas mal aussi.
On crachera pas dessus. Hein.
C'est même encore mieux. Allez, justement, on va parler de l'AFL, mais on va parler de l'équipe réserve qui, une nouvelle fois, coule face au Petit Bar, cette fois-ci, 5-1. Alors, but pour le Petit Bar, Bouchan, 4e, Majaoui, 56e et 87e, Smiley, 64e. Benouchan 89e, but pour l'FL2, Robert à la 61e.
Alors moi j'avais pour info que c'était le petit Lucas Sesco qui a marqué le but de l'FL. Maintenant
je sais pas, je
préfère le dire au cas où.
Ouais, peut-être plus fiable que
Robert ou Sesco, de toute façon ça reste anecdotique.
C'est Robert Sesco qui a marqué.
Ouais. C'est peut-être ça.
Si c'est le petit Sesco, c'est quand même très bien aussi puisque c'est un U19 qui n'a que 17 ans, voilà.
Ouais, et qui en plus a fait quelques piges années qui préserve.
Ouais.
Et donc cette fois-ci.
C'est bien aussi.
Mende qui reste avant-dernier avec 2 matchs de plus, donc de toute façon on savait que c'était mort.
Cuit depuis un petit moment déjà.
J'avais râlé la semaine dernière sur le fait que l'équipe était amoindrie et que même les jeunes n'avaient pas joué le jeu d'être allés avec l'équipe réserve. Alors cette fois-ci, ça a été différent puisqu'il y avait au moins, je crois, 4 U19 dans le 11 de départ, dans l'équipe. Donc même si le résultat n'est pas celui espéré, c'est bien que cette fois-ci les jeunes se sont investis et soient allés faire ce match qui était à Petit Bar. Ça fait toujours un petit peu peur aux oreilles quand on dit tu vas aller jouer à Petit Bar.
C'est pas toujours facile.
C'est pas toujours facile d'aller là-bas, un peu au casse-pipe, mais ils y sont allés et c'est bien. C'est bien. Bravo.
Ok, allez, donc l'AFL, la réserve qui va descendre.
En PHA.
En PHA. Et qui jouera peut-être contre Marvejol. Marvejol, ils sont en Languedoc.
Voilà, si Marvejol ne monte pas, oui, ça fera un derby l'année prochaine.
Un derby en plus, ça va être intéressant.
Ça fera un déplacement de moins aussi.
Allez, on va parler de l'AFL, l'équipe 1, une 16e victoire de l'AFL qui gagne 4-0 contre Bagnoles-Pont. But pour l'AFL, Gourma 4e, Contreras 34e, Barondon 64e, Mboup 91e. Alors les enseignements de cette journée, Paulhan-Pézenas gagne encore sur un petit score de 1-0 contre Uzès Pont-du-Gard et Narbonne est légèrement décroché. Alors légèrement, ils viennent de faire match nul à la Grande Motte, 1-0 partout, mais ils ont un match de moins encore. Au classement, Paulhan-Pézenas, rien ne change pour le premier et le second, 79 points. Mende 75 points, donc on est à 4 points du leader, on l'a dit depuis quelques émissions déjà, il faut une défaite de Paulhan et un match nul de Paulhan. Alors là, plus ça va, plus les chances
ça me nuise,
hein, vu qu'il reste que très peu de journées, 3 je crois.
Yes. Oui,
3 journées. Exactement. Narbonne, donc 68 points avec un match de moins. Donc si je gagne.
Pour info, Narbonne va jouer son match en retard le vendredi 1er mai. Et donc va jouer le dimanche 3 mai son match de championnat contre Paulhan-Pézenas.
Ah ben c'est intelligent ça, tiens.
Voilà.
Non, mais là, ce match nul de Narbonne contre la Grande Motte, c'est une très mauvaise nouvelle pour la FL, parce que en gagnant ce match en retard, comme Luc le dit, le 1er mai, et en battant 2 jours plus tard Paulhan, je sais même plus si Narbonne est maintenant, là, depuis dimanche après-midi, dans la tête, s'ils sont qu'ils ont encore une possibilité de monter en CFA2. Donc, j'ai peur qu'il y ait beaucoup moins de motivation de la part de Narbonne.
Mathématiquement, en gagnant leur match en retard, ils auraient 72 points. Ouais, et en gagnant contre Pollan-Pézenas, ils reviendraient à 76 points contre
80.
Donc,
il y aurait 4 points d'écart avec 2 journées à la fin. Donc,
messieurs, ce qui se dit autour des stades ou dans les cafés, puisqu'il faut. On apprend beaucoup de choses dans les cafés.
Des fois, on l'oublie au bout d'un moment.
C'est vrai.
Si on reste trop longtemps dans le café.
Il se dit que peut-être la deuxième place serait synonyme d'accession en CFA2. Mais bon, c'est vraiment sous toute réserve. Donc, Narbonne va continuer. C'est le jeu des descentes au-dessus. Là, c'est pareil. C'est un petit peu comme Luc expliquait au basket.
Toi qui traînes dans les cafés, Patrick, tu l'as entendu ça?
Moi, on m'a toujours dit qu'il n'y en aurait vraiment qu'un seul qui monterait. Alors après, ça peut peut-être être modifié. Ça m'étonne quand même. Parce que là, au niveau du foot, comme là, tu passes du niveau, donc CFA2, c'est national, à la DH, c'est niveau ligue, ils repêchent des clubs de CFA2, ils privilégient pas les montées, de DH, donc même s'il y a tout un tas de clubs qui disparaissent, il faudrait une hécatombe, je vois pas comment ils pourraient faire monter il faudrait que Pollan, par exemple, si Pollan, ne voulait pas monter.
Oui, parce qu'il sera a priori.
Il faut qu'il y ait quelqu'un de ta ligue qui monte obligatoirement. Là, oui, le second monterait.
Après,
mais si Pollan accepte la montée, je vois pas comment le second peut être empêché.
On sait déjà que Uzès Pont-du-Gard va descendre. Il y a la réserve d'Alès qui est pas en très très bonne position. Alors, est-ce que le fait qu'il y ait deux équipes de la ligue qui descendent, ça peut ouvrir une perspective? Ça me paraît un peu improbable.
Toujours est-il qu'il faut, au-delà de jouer la première place, il faut quand même. Il faut quand même jouer.
Il faut jouer tout à fond, c'est clair.
Et ce qui fait que Narbonne va aussi jouer le jeu jusqu'à la fin de la saison.
J'espère.
Ouais, s'ils pouvaient pas jouer le jeu le dernier match, voilà.
Enfin, jouer.
Mais c'est dommage qu'ils aient pas gagné. Hein. C'est dommage qu'ils aient pas gagné contre la Grande Motte. Parce que là, on aurait été encore plus sûr de leur volonté de jouer, de leur implication, de leur volonté de jouer jusqu'au bout.
Ouais, mais Patrick, au-delà de ça, de jouer le vendredi et de rejouer le dimanche, c'est du grand n'importe quoi, ça.
Ben oui, parce qu'il faut que les matchs en retard aient lieu avant les deux dernières journées. Donc, ils sont obligés de le faire jouer maintenant.
Et ça va être le cas aussi pour l'avant-dernier adversaire de Pollan qui doit être la Grande Motte ou le Gros du Roi, je sais plus, qui va aussi jouer un match en retard le 8 mai et jouer son match de championnat contre Pollan le dimanche d'après, le 10. Ouais. C'est un petit peu étrange dans les mises à jour de faire jouer ces matchs à 48 heures d'intervalle.
Alors, parce qu'il faut que 17 mai tout soit plié.
Je pense que quand tu joues des matchs en retard, c'est pas des longs déplacements, tu peux les jouer en semaine.
Il y a des clubs qui ne veulent pas jouer en semaine, donc c'est pour ça qu'après les dates prévues, c'est les jours fériés.
En tout cas, avec 75 points, 16 victoires, l'AFL fait un très beau parcours. Je ne sais pas les années précédentes si les seconds avaient autant de points, mais à mon avis, ça doit être extrêmement rare.
Sur les 4 dernières saisons, avec le total actuel de l'AFL, trois fois sur quatre, tu montes.
Voilà. Ouais. Donc, moi, c'est clair.
Malheureusement, on est sur le 1 fois sur 4.
Malheureusement, tu as eu un petit creux en début de saison, vers l'hiver, et donc tu as perdu quelques points, tu les as traînés jusqu'à la fin.
Un petit creux, et rendre à César ce qui appartient à César, une équipe de Pollan qui n'a rien lâché, et qui a perdu aujourd'hui un seul match à Mende. Faut aussi leur reconnaître, ils ont eu du mal, visiblement, ils ont eu énormément de mal contre, ça s'est pas très bien passé contre Uzès ce week-end, mais ça les a pas empêchés de gagner.
Alors, malgré ce beau parcours en championnat, bien que l'objectif soit la montée, ça on le savait, malgré ce beau parcours en championnat, c'est la principale information de ces dernières semaines, de ce week-end même. Gérard Bonnefoy, le président de l'AFL, vient de l'annoncer. Stéphane Saura ne sera plus l'entraîneur de l'AFL la saison prochaine. On va commencer avec toi, Luc. Tu as rencontré Stéphane.
On va dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas le président qui l'a annoncé, puisqu'a priori le président n'était pas là ce week-end. Moi, c'est une info que j'ai eue dans le week-end justement, puisque j'étais au match dimanche. Donc j'ai appelé Stéphane. C'est moi qui l'ai contacté pour lui demander s'il confirmait effectivement le fait qu'on lui avait signifié qui ne serait plus au club, qui ne serait plus l'entraîneur la saison prochaine. Il me l'a confirmé, que le président l'avait convoqué jeudi après-midi, voilà, pour lui dire que il ne serait plus entraîneur de l'équipe première, il ne serait plus au club à compter au soir de la dernière journée du championnat, donc le 17 mai.
D'accord, alors on prévient l'entraîneur qui ne sera plus entraîneur la saison prochaine, alors qu'il reste 3 matchs à jouer, que la montée, même si ça va être compliqué, est possible.
Peut-être qu'il y a une obligation de préavis au niveau des dates, de la fin de ton contrat, il faudrait le vérifier.
D'accord.
C'est peut-être une explication. J'ai pas d'infos officielles par rapport à ce délai de préavis, mais je pense que ça peut jouer. Après, sur le fait, bon, moi je l'ai appris là aujourd'hui, vous m'en avez informé, j'étais pas au courant. Bon, le timing, c'est vrai, est surprenant, mais la décision en elle-même, bon, elle est absolument pas surprenante quand on connaît les relations conflictuelles qui existent entre Stéphane Soura et son président Gérard Bonnefoy. Alors, c'était déjà le cas. On sait que Franck Boutet et Stéphane Soura avaient aussi des relations très conflictuelles, puisque de nombreux mois avant que Franck Boutet passe la main, il y avait aucun contact. Il ne se parlait plus. Il ne se parlait plus. Bon, là aussi, on arrive à la même au même épilogue. Bon, aux mêmes relations entre Stéphane et donc le nouveau président Gérard Bonnefoy. Alors moi, ce que je peux dire. Bon, dans cette émission, c'est vrai, on a quand même une certaine liberté de parole. Donc là, je vais parler bien évidemment à titre personnel. Bon, Stéphane Soura, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais au niveau des résultats, il est inattaquable. Son parcours depuis des années parle pour lui. Quand on discute avec la quasi-totalité des joueurs qui soit passé par l'AFL, qu'ils en soient partis, qu'ils y soient là depuis un an, depuis 10 ans, etc., qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, il y a une quasi-unanimité autour de son travail. Il est énormément respecté par ses joueurs. Donc le seul problème de Stéphane, ben, ça a été ses relations avec ses présidents successifs. Alors, est-ce que c'est de sa faute à lui? Est-ce que c'est de la faute des présidents? Est-ce que c'était si impossible que ça de travailler ensemble? Bon, ça l'apparaît. Je pense que c'est quand même dommage pour la AFL. Je le répète, je parle à titre personnel. Ainsi va la vie. Bon, Stéphane Soura a fait plusieurs passages. Il était à l'AFL, il a pu été. Il n'est pas parti ailleurs pour autant. Hein. Ça, on peut pas dire aussi qu'il est allé monnayer son talent dans d'autres clubs, puisque quand il n'a plus été entraîneur de l'AFL, eh bien, il n'a pu entraîner nulle part. Il a continué à suivre son fils, à suivre les jeunes, à jouer en équipe 3. Laurent est bien placé pour en parler. Donc voilà, il est très attaché à ce club, très attaché à cette ville, alors qu'il n'est pas lausérien d'origine. Donc chapeau Stéphane, moi on a vibré plusieurs saisons à voir ton équipe évoluer. C'est dommage, la vie de l'AFL continuera en espérant que ce soit toujours d'aussi bons résultats dans les saisons futures. Mais je trouve que c'est une situation dommage.
Luc.
Ouais, moi, de ce que j'ai compris de ma discussion avec Stéphane, c'est qu'on lui reproche, enfin sportivement, je pense qu'on n'a pas grand-chose à lui reprocher.
Ouais, comme disait Patrick, 16 victoires, 2 défaites.
16 victoires, 2 défaites.
La Coupe de France, la montée.
Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, là, on se base donc sur cette année.
Oui,
c'est vrai qu'il y a eu un beau parcours déjà en Coupe de France et 16 victoires, 2 défaites. T'as la malchance de tomber sur Poland.
Oui,
exactement.
Tout à fait. Je crois qu'après, parmi les choses qu'on lui reproche, c'est notamment sa communication. Voilà, je pense que peut-être certains ont pris ombrage du fait que c'est vrai que Stéphane est un élément un peu incontournable quand on parle football et quand on parle de l'AFL. Voilà, après, sportivement, mis à part quelques... A priori, il y a une petite divergence d'opinion, et c'était visiblement ce qui pêchait aussi avec Franck Boutet, sur le fait d'avoir scindé en deux un effectif, c'est-à-dire un effectif pour la DH, un effectif pour la DHR, et que, a priori, de ce que j'ai compris, les dirigeants auraient aimé que tout ce petit monde se retrouve ensemble pour faire les entraînements. Voilà. Pour moi,
à ton avis, c'est une cause de la mauvaise saison de l'équipe 2, ce fait qu'il soit scindé? Non,
je crois pas.
Patrick, tu penses ou pas?
Non. Moi, je connais quand même le football. J'ai été dirigeant, j'ai été président, et c'est vrai que j'ai rarement croisé, pour ne pas dire jamais, un entraîneur qui te dise je vais prendre 40 gars pour s'entraîner, la 1 et la 2. N'importe quel entraîneur au monde, en principe, hein, il te dit, oui, moi, je prends mes... Surtout les derniers entraînements, c'est-à-dire celui du vendredi,
oui,
ou celui du jeudi, ou celui du jeudi-vendredi, il va te dire, bon, moi, je prends mes 14 gars, je les fais bosser, et après, le reste, entre guillemets, il se débrouille avec l'équipe 2. Donc ça, c'est... Bon, alors après, on peut le regretter, mais c'est quand même un leitmotiv que tu retrouves aussi quasiment tous les entraîneurs d'une équipe Fagnon. Alors après, c'est vrai que toi, quand tu es dirigeant, tu te dis, tu vois, cette réserve, alors en plus, quand elle est dans une position compliquée, tu te dis, c'est vrai que s'ils s'entraînaient tous ensemble, ça les motiverait, tout ça. Mais bon, après, si le gars, il est pas motivé pour jouer un DHR, et si certains ne sont pas capables de se dire, j'ai pas le niveau pour jouer une équipe 1, tu peux mettre n'importe quel dirigeant et n'importe quel entraîneur au monde, si le gars, il a pas son autocritique et s'il est pas capable de voir, tu vas au-devant d'une saison comme tu arrives à la FM. Ouais. Ça existe dans tous les clubs, mais dans tous les niveaux, même dans tous les niveaux.
Pas compliqué pour prendre notre exemple, nous, au basket, on est 25 licenciés. Et je pense clairement qu'en étant 20, parfois à l'entraînement, le collectif s'en ressent, et il vaut peut-être mieux être parfois 12, 10 ou 12, et que ce soit par contre le groupe des gens qui vont jouer le week-end pour travailler une cohésion, que se retrouver à 30 ou à 40. C'est compliqué. Après, je pense que c'est pas le seul grief qui est contre Stéphane. Personnellement, comme disait Patrick, je trouve que c'est au niveau du timing, c'est très mal choisi. On arrive à un moment de la saison qui est critique.
Sauf si on est obligé, comme dit Patrick, par rapport au délai. On met des réserves.
Oui. Après, tu peux pas dire, sur cette histoire de première réserve, tu peux pas dire que vraiment il y a eu tout à fait une fracture, parce que tu as des joueurs comme, Brunel, Nicolas Brunel.
Thibaut Barandon qui a marqué encore.
Bon, ils ont quand même joué pas mal de matchs en réserve, et là, quand Stéphane a eu besoin d'eux, récemment pour jouer en équipe 1, on peut pas dire que Nicolas Brunel a renaclé ou il a fait des mauvais matchs. Vous voyez, toujours concentré.
Hier, il a fait un super match.
Tu as quand même un gars comme Benjamin Almeras qui a été un pilier de cette équipe, qui a fait ce parcours en Coupe de France en étant un fer de lance. Mais il a été écarté, il s'est retrouvé en réserve, et c'est pas pour ça que tu as entendu Almeras dire j'ai déchiré ma licence, etc. Donc il y a quand même eu des vases communicants, aussi bien de la 2 vers la 1 que de la 1 vers la 2, et c'est pas pour ça que tu as entendu des joueurs qui étaient complètement catastrophés. Tu peux citer, tu citais Barandon, on peut citer Vlad Petkovic qui a été blessé quasiment toute la saison, qui s'est retrouvé en 2, et puis quand il a fallu qu'il monte en 1, il a fait ses matchs en une. Je me souviens de sa rentrée contre Aigues-Mortes. Il n'y a rien à dire sur le match qu'il a fait. Il est rentré à la mi-temps, il a fait une super mi-temps.
Je pense que le mal est beaucoup plus profond que simplement cette divergence d'avis là-dessus. Après, je trouve ça dommage. Je trouve que le club a quand même progressé ces dernières années, et que Stéphane Sora n'y est pas étranger. Après, je lui souhaite, si sa carrière avec la FL s'arrête ici, je lui souhaite de poursuivre ailleurs, parce que je pense que c'est un très bon technicien et qu'il a sa place, à mon avis, sur un banc, même ailleurs qu'en DH, peut-être même.
Oui. Mais c'est vrai que Stéphane Sora, c'est un extraordinaire communicant, et c'est vrai, pour nous qui sommes journalistes, c'est ce qu'on appelle un client, c'est un vrai client. La dernière interview que j'ai fait de lui, elle tenait plus d'une page, c'est quasiment une page et demie. Il fait passer des messages. Il a fait passer des messages subliminaux, en particulier à son président. Si tu es au club ou autour du club, bien sûr que tu les as décodés. Mais le supporter de base, il y a certains trucs qu'il a pas décodés. Mais il est bien évident que le président Bonnefoy, lui, il les a immédiatement décodés. Et donc, c'est vrai que cette interview, ça lui a pas fait que du bien à Stéphane. Mais il le savait. Il a fait en toute connaissance de cause. Et bon, c'est, voilà, mais bon, si tu viens en entraîneur parce qu'il est meilleur communicant que toi, c'est pas, à mon avis, une raison valable. Mais il faut attendre aussi les explications du président Bonnefoy, ouais, qui va certainement les donner. Donc voilà, il y a certainement peut-être des choses qu'on connaît pas aussi, mais il faut voir. Mais bon, il y a quand même un petit air de gâchis, à mon avis, personnel. Je pense qu'il y a un petit air de gâchis, quand même.
On va essayer de les inviter séparément dans l'émission, de les avoir. Mais c'est vrai, ce que tu dis, Patrick, c'est important. C'est vrai que humainement et même sportivement, Stéphane Saura, moi, je parle à titre personnel aussi, c'est toujours intéressant de discuter avec lui de sport, de tactique, de football, et ses résultats plaident pour lui. La vie continue, la FL continuera d'exister.
C'est la vie de tous les clubs. C'est la vie de tous les clubs.
C'est la vie de tous les clubs.
Il y a eu des dirigeants avant, il y aura des dirigeants après, il y a eu des joueurs avant, des joueurs après, des entraîneurs avant, des entraîneurs après. Mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément les mêmes résultats. Et heureusement. Donc ça veut dire quand même que les hommes ont quand même leur importance, que ce soit un dirigeant, un entraîneur ou un joueur.
Alors, on précise que Laurent ne participe pas à ce débat parce
qu'il est pas parti.
Parce qu'il connaît rien. Non, parce qu'il fait partie du conseil d'administration. Donc voilà.
Il a un devoir de réserve.
Il a un devoir de réserve. On le laisse.
C'est tout à son honneur.
Est-ce que ça peut annoncer le retour de Franck Boutet, Patrick?
Pourquoi pas? Parce qu'on sait quand même qu'il y a quand même une énorme amitié entre Gérard Bonnefoy et Franck Boutet. Et d'ailleurs, Gérard Bonnefoy ne s'est jamais caché que son objectif, c'était de faire revenir Franck Boutet, qui est quand même quelqu'un qui a bossé énormément, un bénévole, un acharné, un amoureux du football et un amoureux du football amande et de l'AFL et avant de l'événement noir. Donc, pourquoi pas un retour de Franck Boutet? C'est pas quelque chose qui est inenvisageable, surtout maintenant que Stéphane Saura n'y est plus.
Luc?
Je sais pas, et à vrai dire,
ça t'intéresse pas.
Ouais, non, enfin, enfin, est-ce que tu te sépares d'un entraîneur qui a des résultats pour faire revenir un autre dirigeant? Est-ce que c'est ça?
On ne dit pas que
le président Bonnefoy a pour objectif de se séparer de Stéphane Saura parce qu'il veut absolument. Mais bon, ça peut être une conséquence du fait que Stéphane Saura.
Après, faire revenir Franck Boutet, c'est vrai que lui aussi, de son côté, il a apporté beaucoup à la FN. Mais à quoi? En tant que président, il y a un président en place. Est-ce que ça veut dire que
de réintégrer le comité directeur après d'avoir des fonctions qu'il avait, d'autres fonctions élargies.
Ouais, c'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps au sein de l'AFL.
Il y a peut-être certains dirigeants aussi qui font partie du CA. Bon, bien sûr, Laurent ne peut pas parler, mais il y aura peut-être des dirigeants qui vont démissionner parce que Stéphane Saura ne sera plus l'entraîneur. On sait très bien qu'il y a des dirigeants qui sont très proches de Stéphane Saura. Que vont-ils faire?
On va suivre tout ça. Ouais.
Après, point de vue général, c'est aussi une. Je pense une question d'image. Moi, je trouve que faire ça comme ça à trois jours de la fin, au niveau de l'image du club, on va rappeler qu'il vient de recevoir 30 000 euros de subvention de la mairie. Je trouve pas ça très habile à ce niveau-là. Un club qui joue encore la course. Et si au soir du 17 mai, l'AFL accède en CFA2.
Parce que le débat est là. On parle des bons résultats sportifs de Stéphane Saura.
A priori,
il faut peut-être défendre aussi le président Gérard
Bonnefoy. Bien sûr,
oui. L'objectif, c'est la montée. C'est pas le premier entraîneur qu'on voit finir second avec des bons résultats, mais qui n'a pas atteint ses objectifs.
On a même vu des entraîneurs qui étaient premiers et qui se faire limoger. C'est très rare.
À Paris, mais
c'est arrivé.
Antoine Comboiré s'est fait virer de Paris. Il était premier.
Alors, Ranieri à Monaco qui était second, qui est parti.
Attention, a priori, de ce que m'a dit. Encore une fois, j'ai pas encore eu le président, donc je peux pas. J'ai qu'un point de vue. A priori, c'est pas son parcours sportif.
D'accord.
C'est un problème relationnel.
Voilà. C'est un problème relationnel.
C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Ouais.
Mais c'est vrai qu'au niveau de, l'image, et on sait qu'il y a eu. Que c'est pas la première fois qu'il y a des anicroches. Il y en avait eu déjà. À la veille de la finale de la Coupe de la Région l'année dernière, Patrick, tu t'en souviens.
J'y étais, bien sûr.
Il y en avait eu aussi après le match contre Andrézieux. Après, a priori, c'est pas des problèmes. C'est pas sur les résultats sportifs.
C'est sur.
Ce qui est dommage, Ludo, c'est que bon, la compétence de Stéphane Saura. Personne ne peut la contester. Et d'ailleurs, c'est pas sur ce problème de compétence qui met un terme à ses fonctions pour la saison prochaine. Mais la compétence aussi de Gérard Bonnefoy en tant que dirigeant et en tant que président, Moi, je le connais. Je sais ce que c'est la fonction puisque je l'ai occupé. Je peux te dire, il est compétent. Il fait du bien, il amène des choses, il est omniprésent, il bosse, tout ça, au niveau des sponsors. Bon, de par son métier, il a un relationnel énorme. Bon, mais il récupère des sous pour son club. Bon, quand même, il prend des décisions, il tranche. Bon, parfois, c'est vrai que ça fait des étincelles, mais bon, il se cache pas. Il prend ses responsabilités, il prend des décisions. Donc au niveau de sa fonction et du poste qu'il occupe, il amène des choses, il est compétent. Donc c'est dommage que deux personnes qui sont compétentes chacune dans leur domaine en arrivent à se séparer à cause d'un problème relationnel. Moi, c'est ça qui me fait un peu râler et c'est pour ça que je parle de gâchis.
Ouais, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec Patrick. Et je trouve dommage qu'on n'attende pas la fin de saison pour officialiser ou pour régler ça. Sachant que je crois que les joueurs n'avaient pas été mis au courant justement de cette décision.
Eh bien, ils le seront par cette émission.
Ouais, enfin, voilà. La plupart ouais, le savaient parce que ouais. Bon, bah, c'est d'ailleurs il y a eu un petit geste de Fadil Gourmand au premier but hier qui est venu saluer Stéphane après le premier but.
Mais bon, c'est vrai qu'on a compris dès le début de saison l'état d'esprit du président. Bon, là, il avait convoqué la presse. Bon, tout le monde était présent, aussi bien les journaux que les radios. Bon, mais ça avait déménagé. C'était même hallucinant. Bon, c'était quand même quasiment de l'inédit dans l'histoire du sport lausérien, tout sport confondu. Bon, il avait sorti la tronçonneuse, il y avait là aussi des messages subliminaux à l'attention de son coach.
Et pas des subliminaux d'ailleurs, pas que des subliminaux.
De certains joueurs. Bon, ça avait été un déchaînement, quoi. Et le premier match était même pas passé. Donc non, ça partait.
C'était avant la finale de la Coupe de la Région.
Voilà, ça partait sur des bases très élevées. Donc bon, voilà, il y a eu aussi un emballement tout au long de la saison d'un côté et de l'autre.
Ouais, après moi je trouve ça, comme dit Patrick, pour moi il y a du gâchis parce que encore une fois, et si au 17 mai la FA est en CFA2, on fait quoi?
Oui, c'est ça la question.
Voilà, bon, la question est là.
C'est vrai que c'est ce qu'il faut dire dans ce milieu du football, et c'est partout pareil, c'est pas les entraîneurs qui manquent, hein. Là je suis sûr que le président Bonnefoy sur son bureau il a 40 ans. Tu peux dire que j'exagère.
Mais je
te promets, entre 40 et 50 CV d'entraîneurs sur son bureau à l'heure actuelle, il a que l'embarras du choix. Bon, mais le football, c'est comme ça, il y a tout un tas d'entraîneurs qui se retrouvent sur le carreau ou qui se disent, bon, quand même, depuis un certain temps, ça y va, il y a une équipe, il y a des recrues, ça monte, ça booste, il y a un maire qui est omniprésent, une municipalité, tout ça, donc, voilà, ça parle, les entraîneurs sont pas fous, hein.
Bien sûr. Bon, c'est vrai, après, qu'il y avait aussi un projet et une dynamique qui s'était créée autour du coach. Est-ce que ça va continuer comme ça? C'est vrai que tu as fait venir des nouveaux entraîneurs. Je pense qu'on en a passé depuis quelques saisons.
On en a vu
passer quelques-uns.
Et pas que des bons, hein,
voilà,
ça c'est sûr.
Et dès qu'ils ne sont pas restés très longtemps, qu'ils sont restés une saison ou même parfois moins d'une saison.
Moins d'une saison.
Donc ouais. C'est vrai que là, il y avait une certaine stabilité. Mais bon, après, c'est la vie, c'est le football, c'est comme ça.
Et comment faire les joueurs? On sait que certains joueurs sont totalement aussi très attachés à Stéphane Ossoura. Alors bon, après, il faudra voir, quoi. Mais ça, on le verra vite, hein. Tu le verras à l'intersaison.
Oui. C'est pareil, hein, ils sont très attachés, mais il y a aussi la réalité. C'est
oui, bien sûr.
Aujourd'hui, peut-être qu'un joueur, il va pas décider de tout quitter.
Non, parce que tu changes d'entraîneur, on est d'accord aussi.
Tu changes d'entraîneur et que des fois, tu te heurtes aussi à la réalité qui est de je veux bien partir mais il faut un boulot, il faut un club, enfin voilà.
Merci messieurs, c'était très intéressant.
Ouais. Donc à suivre.
On va suivre ça, attention, on va faire une pause musicale, on revient avec l'actualité nationale et internationale et on vous promet vous entendrez Laurent Julien parler de Marcelo Bielsa. Ah, c'est parti.
Strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. I'm
happy end. Cause you don't understand. Everything you have done. Why is everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand. I'll take you far away. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, I felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
Allez, on reprend avec un petit mot handball. On n'a pas parlé d'handball, Laurent.
Oui, parce que samedi soir, j'ai regardé la finale de la Coupe de France de féminine de handball et qui opposait Nîmes à Metz. Et à Nîmes, il y a une mandoise qui s'appelle Charlène Clavel qui a fait tout son match, un beau match, mais qui a perdu. Mais bon, c'est
au
une mandoise.
Au tir au but, voilà. Tir au but après avoir,
c'est rare. Hein,
au ouais. jet de 7 mètres,
voilà.
Monsieur.
Oui, après avoir égalisé sur une pénalty.
À la dernière seconde.
Même plus que la dernière seconde, ouais. Parce que même les adversaires pensaient qu'elles allaient gagner.
Les Messines étaient déjà sur le terrain
en train de péter. Il y a un arbitre qui a dit oh, « Oui, mais moi j'ai sifflé pénalty par contre. »
Voilà, donc le pénalty... Ouais. Qui a été marqué. Et donc, et derrière, jeu de 7 mètres. Voilà, il y a eu un seul, il y a eu deux ratés.
Enfin, Laurent, ouais. Tu sais que c'est les copines de Luc, hein, les handballeuses nîmoises.
C'est vrai.
Tu les connais bien.
J'en connais, enfin, je un peu moins maintenant, mais j'ai fêté quelques victoires en Coupe d'Europe et quelques titres européens avec elles.
Voilà, donc du coup, je voulais faire passer ce petit message pour une mandoise qui a réussi à haut niveau.
Oui. Son papa est très connu puisqu'il est dentiste.
Voilà.
Amande.
Et toute la famille avait fait le déplacement pour voir jouer Charlène.
Qui était titulaire et qui a joué.
Qui fait une très très belle saison et qui a fait sa place, qui a vraiment fait sa place au sein de cet effectif.
Okay. Et là, j'ai bien reconnu la Lausérienne Calais, puisque la première joueuse qui a pris 2 minutes, c'était elle.
C'est ça. Il y en a une autre aussi, hein, qui joue en D2, qui s'appelle Sophie Graville, qui joue à
la région parisienne.
Ouais, ici les Moulineaux. Ah, Sergi, elle est maintenant.
Sergi Pontoise.
Ouais,
hein.
Sergi.
Ah, cette aussi, belle ville de Sergi Pontoise
qui est aussi passée par Nîmes.
Par Nîmes.
Paris a gagné en masculin la Coupe de France, hein, face à Nantes. Il a gardé son titre 32 à 26. Voilà, c'est également à noter.
C'est dommage. C'est dommage parce que le match se jouait le dimanche alors que les finales des féminines étaient le samedi. Vu que c'était au même endroit, c'est peut-être dommage que tout soit pas fait la même soirée. Bon, après.
Ouais. Ouais, mais c'est peut-être pour faire entrer tous les spectateurs, les supporters.
À Coubertin.
Et en basket, il y a eu la victoire de Nanterre.
J'allais en parler à la dernière seconde également.
Voilà. Un match incroyable, je me suis régalé.
Ouais, le dernier titre européen remonté à 2002 avec quel club qui a gagné un titre européen français?
Nancy.
2002, ouais, ça va être
Nancy, Luc, bien joué Patrick.
Le Sluc Nancy qui avait gagné une coupe.
La même coupe que.
C'est l'Euro Challenge.
Voilà. C'est la troisième coupe, c'est la plus petite coupe, mais. Bon, quand même,
ça reste un titre.
Alors, d'autant que là, c'était contre Fenerbahçe, à Fenerbahçe, en
Turquie. Des tribunes, en folie, un public hallucinant.
Climatisé en une seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, il n'y avait plus un bruit.
C'est vrai qu'il y a eu un panier à la dernière seconde,
64
totalement improbable.
De TJ Campbell.
Il y a eu un rebond Bon, voilà, il est au milieu de deux, il prend le rebond, il file la balle à son petit meneur de jeu, et puis le mec il tire et ça tombe. C'est ce qu'on appelle avec une sorte de saucisson là.
Un shoot alléluia comme on dit.
Voilà, et ça retombe dedans.
Et ça retombe dedans.
Un dixième de seconde. Ouais, de
D'ailleurs, les arbitres ont eu recours à la vidéo. Pour confirmer que.
Donc au basket, il y a déjà la vidéo, le basket qui est en avance sur le foot.
Ah bien sûr, il y a la vidéo, il y a la vidéo.
Au rugby, il y a la vidéo, tout le monde a la vidéo.
Il y a la vidéo.
Sauf Platini, il va la voir.
La vidéo, alors je crois qu'en après, France,
c'est
au basket,
un autre débat, parce que moi je suis pas forcément pour, mais
elle est pour juger sur ces tirs au buzzer et sur les 24 secondes. Ouais. Si le ballon a quitté la main du joueur avant.
Toi, t'as la ligne, comment ça s'appelle là pour savoir si le ballon est rentré? Tu vas voir ça l'an prochain.
La goal line.
La goal line. Donc c'est pareil.
En fait, c'est pour savoir si le ballon a bien quitté la main du tireur avant que le temps soit écoulé.
Ouais. Voilà.
Soit pour les 24, pour l'horloge des 24 secondes.
C'est au début du buzzer ou à la fin du buzzer?
Ah, c'est au début. À partir du moment, enfin, c'est pas le buzzer en fait. C'est à partir du moment où le panneau indique 0-0.
Ouais.
Il devient rouge le panneau.
Il devient rouge. Si avant que le panneau soit
il faut que le ballon
rouge, il faut et quitter la main. Alors, s'il a quitté de ça, ça compte.
Mais Laurent peut pas regarder deux choses à la fois. S'il regarde le ballon, il peut pas voir le panier.
Ouais, c'est ça.
C'est pour ça qu'il y a la vidéo. Les gens arrêtent.
Ouais.
C'est pour ça.
C'est pour ça qu'il y a trois arbitres au basket.
Ouais. D'ailleurs, hier, je me suis couché à 1h30 pour regarder les Clippers contre les Spurs.
Mais
je me suis régalé.
Bon,
c'était un peu long. Mais...
J'ai failli enchaîner sur Toronto Raptors de Washington
et
Wizards.
C'est qui a gagné? Les Spurs ont
perdu. Non, les Spurs ont perdu.
Ils sont à
2-2.
Ils sont à 2-2. Non, 2-2. Il y a deux matchs à Los Angeles.
Non, un à Los Angeles, un à San Antonio et un à Los Angeles.
Voilà.
Ça fait 1-1-1.
Oui.
Et oui,
c'est le meilleur des 7 matchs.
Après, c'est fini.
Non, je crois que c'est 2-1. Mais
non, le dernier, il est toujours.
Le dernier sera à San Antonio. Si dernier, il y a.
Ah non, c'est aux Clippers.
Non.
Parce que les Clippers se finissent devant San Antonio en saison régulière. Oui.
Ouais. Crespon, tu arrêtes un peu.
Oui. Les Clippers se finissent 3e et les San Antonio 6e. La conférence Ouest.
C'est ça. Mais bon, on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'était un beau match. C'était sympa à voir.
Avec Parker qui est en dedans parce qu'il est blessé un peu de partout.
Mais il a été bon. Il était bon quand même. Début de match. Après, il s'est fait un peu défoncer. Mais voilà. Football.
Et d'ailleurs, tiens, petite anecdote. Il y a un joueur qui était très très bon qui s'appelle.
Qui est Mondoa?
Non, pas du tout. Qui est pas Mondoa. Mais qui s'appelle Austin Rivers. Et c'est drôle parce que c'est le fils du coach des Clippers. Non, c'est pas de Dick Rivers, c'est le Doc Rivers.
Pas de Dick, mais de Doc.
De Doc Rivers, qui est le coach des Clippers.
Qui joue à Boston avec lui, il a récupéré.
Et d'ailleurs, Doc Rivers, c'est l'arbitre du prochain match de Luc en féminine. La semaine prochaine.
Si Doc Rivers vient arbitrer,
c'est lui ou Popovic. On sait pas.
Alors, si, n'importe lequel des deux vient arbitrer un jour un match, je vous préviens.
Par contre,
je ne dis rien, je les regarde pendant tout le match, je leur demande de jouer avec moi.
Par contre, Noah est bien parti pour passer ce tour et rencontrer Cleveland, LeBron James tour suivant. Là, ça va faire des étincelles.
Ouais. Cleveland qui a perdu Kevin Love sur blessure, il s'est déboîté l'épaule.
Il s'est pas déboîté tout seul, par contre.
Ouais, il s'est fait un peu déboîter l'épaule. Ouais, quand on dit qu'il n'y a pas de contact, là, tu vois qu'il y a des contacts.
Ouais. Dénommé Kelly Olynyk qui a quand même pris bien soin de lui déboîter l'épaule. Volontairement ou pas, je sais pas, mais en tout cas.
Le chevelu.
On aurait dit le Valdois et FL3. Football, justement. Allez, Laurent Julien, désigné joueur de l'année en première ligue. Qui? Sans regarder tes fiches.
Sans regarder, c'est Eden Hazard.
Hazard.
Et voilà, Eden Hazard, sa distinction lui avait échappé deux fois. Il avait été meilleur jeune. Là, il devance le prodige de Tottenham, Harry Kane, et le gardien David de Gea. Donc, il a été sacré meilleur jeune l'an dernier. Cette année, meilleur joueur de...
Normal.
De première ligue.
On est d'accord. Il porte Chelsea, c'est grâce à... En grande partie grâce à lui qui vont être champion d'Angleterre.
Et d'ailleurs, si Chelsea a été éliminé en Coupe d'Europe, c'est quand même pas dans le match aller, le match retour, on n'a pas vu Eden Hazard contre Paris.
Mmh. Mais j'espère qu'il va se rattraper, mais il suit un peu peut-être la trace d'Ibrahimovic en étant assez quand même transparent pendant les Coupes d'Europe, mais très bon dans son club dans les championnats.
C'est ça,
Contre Crystal Palace, West Bromwich.
Un peu ça.
Comme Ibra contre Saint-Etienne.
Voilà.
Voilà, Saint-Etienne, on n'en parlera pas aujourd'hui. Antoine Griezmann, on voulait en parler la semaine dernière, on n'a pas eu le temps. Allez, là, on va en parler, car il devient le meilleur buteur français dans un championnat espagnol. Il a devancé Benzema, qui avait 21 buts, il avait le record.
Ouais.
22 buts, un nouveau doublé.
C'est vrai que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible que Paris n'ait pas acheté ce joueur quand il est sorti de la Real Sociedad. Bon, quand tu vois qu'il c'est l'Atlético de Madrid qui le prend, je pense que si tu avais proposé quelque chose d'intéressant à Griezmann, en tant que PSG, il serait revenu à Paris au lieu de signer à l'Atlético de Madrid. Donc, je ne comprends pas comment les dirigeants peuvent passer à côté de ce genre de joueur. Bon, il y a le fair play financier, certes, mais bon.
Je pense qu'il n'était pas plus cher que Cavani.
Exactement.
Hein.
Exactement. Ou que David Luiz.
David Luiz.
Voilà. Donc, moi, pour moi, quand tu es Paris, Bon voilà, tu dois prendre
ouais,
un mec comme
Griezmann. Je pense que Paris
ils sont tournés vers l'Italie. Paris c'est leur problème.
Ouais voilà.
Bah, c'est le problème. Oui c'est vrai qu'ils ont pris sur David Luiz qui joue en Angleterre. Donc
tu parles de Cavani.
Oui non mais je pense que Paris l'année dernière a voulu renforcer son secteur défensif et il savait qu'il pouvait mettre de l'argent que sur un seul joueur. Il se disait qu'en ayant un joueur comme Cavani qui est quand même un des meilleurs, qui est censé être un des meilleurs attaquants du monde, bon, c'est la réputation qu'il en avait. Bah ils étaient armés, ils ont mis l'argent sur David Luiz.
Bah, Cavani qui a coûté 10 fois plus cher que le petit français
que Griezmann a.
Oui, non, mais
qui était évalué à 6-7 millions d'euros l'année dernière.
Non, un peu plus, je crois.
Ah non, 7 millions.
Non, d'euros. Non, ils l'ont acheté 30 millions, c'est le, enfin, non, c'est si, le transfert si. Le plus cher de l'Atlético.
Ouais, ouais, il l'a acheté 30 millions.
Ouais. 30 millions, ouais.
Non, non. L'Ouest, non, mais c'est la cheville qui tombe blessée.
Ouais, non, non, mais.
J'ai 42 de fièvre.
Non, on est d'accord.
Ça doit venir du.
Après,
du Ventoux.
Après, sachant qu'ils pouvaient faire l'effort.
Pas du Ventoux. Ouais.
Sachant qu'ils pouvaient faire l'effort que sur un seul joueur, ils ont choisi David Luiz. Alors voilà, après sachant que quand tu vois la saison que fait, non mais quand tu vois la saison que fait Marquinhos, tu te dis peut-être a priori, a posteriori, qu'il avait pas besoin.
Après, voilà. Et Camara, et quand t'as Camara, et quand t'as Tiené qui part à Montpellier que tu peux garder, c'est un autre débat. Allez, deux questions pour finir cette émission. Et il y a les pronostics. Il y a quelqu'un qui a eu raison la semaine dernière.
Il y a eu des 0-0 pour Monaco, je crois, non? Il y en a que 0-0. Non, non,
que des 1 partout.
Ah, que des 1 partout. Ah,
allez, on va écouter pour Barça. Barça, il y a eu un bon pronostic. On l'écoute. Allez, on va faire les pronostics. On va commencer par toi, Benoît. Mardi, le PSG, donc demain. Le PSG va à Barcelone. Pronostic, Benoît.
2-0 pour Barcelone.
Ok, Patrick.
1-1.
Ok, Luc.
1-0 Paris.
Allez, notre champion. Vas-y, Laurent.
Alors, 4-1 pour Barcelone.
Ok, moi je vais dire 4-1 pour Barcelone. Allez, mercredi, l'AS Monaco reçoit la Juventus. Voilà, on s'arrête parce que la Juventus, on a eu tous faux. Bravo à l'équipe de Châteauneuf, à Benoît Albouy qui a trouvé le bon résultat. À Saint-Georges, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai Châteauneuf. Ouais.
C'était la semaine d'avant.
Châteauneuf. D'ailleurs, on recevra Badarou la semaine prochaine. En parlant de pronostics, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de Ligue des Champions cette semaine. La Ligue 1,
il n'y a que Paris demain contre Metz.
C'est ça.
Un match en retard.
On peut parler de l'effet Bielsa.
Oui, mais ça, c'est les deux questions. Alors, j'ai deux questions aujourd'hui. Première question, Lyon, petit lettre champion, après sa victoire et sa première place. Non, mais après... Deuxième question, Marcelo Bielsa doit-il être conservé?
Bien sûr.
Alors, Patrick, donc, non et oui. D'accord, ben voilà. Tu peux argumenter. Allez.
Lyon ne sera pas champion, parce que je vois quand même Paris, avec ce match en retard contre Metz, demain... Ouais, ça fera quand même 3 points d'avance. Bon, même si tout est possible, même s'ils ont fait un bon match contre Reims, mais bon, Reims, quand même, a une défense qui est du même niveau que celle de Marseille. Donc, je vois pas Lyon champion. Et après, faut-il conserver Bielsa? Depuis le début de la saison, je le dis, je le répète, et je le répéterai jusqu'à la fin de la saison. J'espère qu'il va rester. Parce que si on n'avait pas Bielsa, on serait actuellement 10e avec une équipe de fantômes, des joueurs absolument pas au niveau et il a tiré tout ce qu'il pouvait de ces joueurs-là et maintenant, bon, c'est vrai, ils sont cramés, bouillis et donc ça fait des matchs comme ça. Bon, on parle toujours des mêmes, mais on va les récupérer, on va le répéter. Bon, quand tu vois Morel sur le deuxième but, il fait une passe décisive à un gars de Lorient alors qu'il peut mettre la tête en corner, etc., etc., etc. Bon, mais j'espère que vraiment que Bielsa va rester parce qu'on voit du super jeu. Même si on perd, et moi je suis très satisfait de Bielsa, je suis très satisfait de la saison qu'on fait, des matchs que l'on voit, et je me régale. Donc je dis, vive Bielsa.
Moi ça va aller vite pour ces deux questions, mais je te suis à 100%. Non et oui, et pour les mêmes arguments.
Merci Ludo.
Je suis totalement d'accord. Luc.
Non, Lyon ne gagnera pas le championnat de France quand on voit la démonstration de Paris contre Lille, qui est pas non plus une mauvaise équipe. Ça veut bien dire que les Parisiens restent concentrés sur leur triple objectif et qu'on aurait pu, penser qu'ils pouvaient lâcher un peu, mais je crois que non, ils ont réussi à se reconcentrer et qu'ils vont être au top, d'autant que Ibra va revenir pour les derniers
matchs proposés.
Et oui, pour Bielsa, à la seule et unique condition pour moi, c'est que Marcelo Bielsa puisse faire l'équipe qu'il a envie de faire. Alors, même s'il n'a pas des moyens infinis, je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut.
Il y a du meilleur que Morel à moins cher.
Ouais, alors je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il demande aux joueurs et que tu peux pas lui imposer un joueur qui ne répondrait pas à ces critères qui sont assez exigeants et voilà. Et je pense que dans ces conditions,
il est exigeant avec lui-même aussi.
Je pense qu'il est très très exigeant.
Il assume déjà en conférence de presse. Il assume
ses erreurs. Je pense qu'il est beaucoup plus exigeant avec lui-même qu'il ne peut l'être avec ses joueurs.
Le seul reproche que je lui fais. Et bon, j'aurais aimé voir la saison différemment. C'est sur le cas d'Oria. Je pense qu'il s'est entêté. Il n'aurait pas dû s'entêter autant. Et même si Labrune avait recruté Doria sans son accord, il aurait pu quand même dire bon, oui. Au niveau défensif, moi j'ai vraiment quand même, c'est mon secteur le plus catastrophique. Donc j'ai quand même un joueur. Je vais quand même essayer de le faire jouer. Mais pour moi, vraiment, ce niveau, c'est le seul truc que je peux lui reprocher. Après, sur le reste, je suis 100% d'accord avec lui.
Quitte à ce que Doria passe totalement à travers.
Exactement.
Tout le monde, vous voyez, j'avais raison. Il est voilà. Et c'est là où je te dis, il faut qu'il ait les mains libres pour le recrutement, comme ça, au moins. Et il aura pas d'excuses.
Allez, Laurent, deux questions. Lyon peut-il être champion? Marcelo Bielsa doit-il être conservé?
Alors, la première question, oui, Lyon peut être encore champion. Parce que
vous pourrez réagir, messieurs.
Lyon, certes, si Paris gagne son match en retard, Lyon aura quelques points de retard. Je crois que mathématiquement,
trois
points.
La victoire est à 3 points. Les deux équipes sont égalisées. Logiquement, je suis pas super beau en maths, mais ça passe.
Bon, alors 3 points.
Surtout que Metz va envoyer la CFA, donc bon.
Non, mais avec Marseille, avec la CFA, on a fait 0-0 à Paris. Alors, je vais te dire. Non, c'est pas
avec
ça.
Avec Bocali.
Vous avez perdu 7-3 contre Lorient à domicile.
On laisse parler Laurent.
Lyon peut être champion parce que Lyon n'a rien à perdre jusqu'à la fin de la saison. Ils savent qu'ils finiront pas 3e déjà. Et puis, c'est une équipe jeune, joueuse. Moi, je dis que tout est encore possible. C'est comme l'AFL qui peut encore finir champion.
Premier, oui,
donc, je vois pas pourquoi Lyon ne pourrait pas finir champion aussi.
Oh, moi, je pense que Lyon va gagner tous ses matchs, mais que Paris va gagner tous ses matchs aussi. Ah,
donc,
personne joue contre Montpellier, là? Non.
Deuxième
Paris,
question.
L'avant-dernière journée.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, pour ta deuxième
question. Et Nicolas est très copain avec Colas.
Ouais, mais il aime beaucoup Nasser.
Et oui.
Ah bah oui, tu m'étonnes.
Il aime beaucoup Courbis parce qu'il a dit que c'était un fumiste. Mais bon.
Marcelo Bielsa doit-il être conservé? Non.
Allez, en opposition, c'est bon
non,
ça.
Non, il peut pas être conservé parce que ça fait déjà 7 ou 8 matchs qu'il se passe rien dans ses compositions. J'ai vu le match à Nantes.
Putain, il met Ayou arrière gauche. Quoi.
On prend 5 buts.
Laissez parler Laurent.
Non, et
argumentation
de Laurent. T'avais Ayou arrière gauche.
Je trouve que tactiquement, il se remet pas en question, justement. Il doit pas regarder les matchs.
Il persiste avec Thauvin, qui est complètement
avec
nul.
Je pense que Thauvin, il a eu sa dernière chance.
Il persiste avec Imboula, tout seul, milieu défensif. Et puis surtout, j'aimerais bien qu'il soit pas conservé pour qu'on puisse prendre Galtier, qui s'est plus ou moins positionné.
Ranieri,
attention,
maintenant, il y a des caméras dans les couloirs, avec Galtier. Faut faire gaffe.
Mais c'est surtout Ranieri, l'ancien coach de Monaco.
Pour le coup, à faire venir Ranieri, vous avez beaucoup moins vous éclaté que cette saison.
Il me plaît beaucoup moins.
André Ayou, il va jouer derrière l'arrière gauche.
Il va signer à la Roma, c'est quasiment fait ça.
Bielsa, il nous a éclaté jusqu'à Noël. Après, ça a été fini. Enfin, moi, j'ai plus pris mon pied à aucun match.
Je pense que Bielsa paye.
Il a raison, Laurent.
Je pense que Bielsa paye la pauvreté de son effectif. Il a un style de management qui demande énormément aux joueurs et
sorti de l'équipe.
On en a discuté avec Nabil Zanina qui est très pote avec Alexis Romain qui nous a expliqué un peu comment ça se passait. Et au bout d'un moment, de tirer physiquement sur les gars, quand tu mets le Néo-Zélandais là, Bill Taofinua là, je ne sais plus comment il s'appelle, Tuiloma sur le banc, c'était quand même ricrac en effectif. On est d'accord.
Bielsa
avec un effectif un peu plus étoffé, je pense que il peut aller très loin.
Si je peux conclure. J'entends depuis ce match contre Lorient dire que Marseille est complètement désorganisé. Mais si tu analyses les 5 buts de Lorient, tu vois, le premier but, le mec, il fait une passe à l'avant-centre, qui est l'avant-centre qui remise. L'avant-centre, il est au milieu de 3 joueurs de Marseille. Ayou, il y a 2 joueurs de Marseille autour. Donc, tu es absolument désorganisé, puisque tu as tes cinq mecs qui sont en place. Bon, ils sont mal placés, tu prends le but. Le deuxième but, tu peux pas dire qu'il est désorganisé, c'est un coup franc. Donc, tout le monde a soi-disant son adversaire. Bon, voilà. Après, quand on me dit qu'il est organisé, Ayou, sur le quatrième but, il est sur le bord de touche gauche.
Il a trois défenseurs marseillais autour de lui. Il est pas en plus de vitesse. Il est marqué. Donc tu peux pas dire que Marseille est désorganisé, puisque déjà sur trois buts que tu prends, tu as ta défense qui est en place. Et le troisième but de Lorient, mais c'est vidéo gag. Tu as Nkoulou qui est devant sa défense. Il a tous ses mecs autour de lui. Donc il a au moins trois ou quatre solutions de passe. Il donne la passe à qui? Il donne la passe au mec de Lorient. Et le mec de Lorient, après, il faut qu'il élimine encore trois défenseurs. Il le fait. Donc tu peux pas dire qu'il est désorganisé. Sur les quatre points et buts de Lorient, tu n'es pas désorganisé.
Il a gagné quoi, Bielsa, là? C'est quoi son palmarès, ce mec?
Il a été sélectionneur de l'équipe
d'Argentine. Il a été finaliste de la Ligue Europa.
Ouais.
Mais c'est quoi son palmarès? Il a gagné quel titre? Il a pas gagné.
Mais
quand on parlait la semaine dernière de Fernandez et d'Eric Roy qui disaient.
Ah, mais Eric Roy, il a rien gagné.
Et Bielsa, il a gagné quoi? Il a rien gagné.
D'accord.
Mais sur le match de Lorient, moi, tu peux pas reprocher à un entraîneur qui est mené de dire, allez, c'est bon, on joue l'attaque pour essayer. Il finit avec 4 attaquants. C'est génial. Franchement, c'est génial. Le mec. Nkoulou, depuis le retour de la CAN, c'est son frère qui joue.
Quand tu vois le but qu'Ocampos rate. Tu peux mettre Guardiola comme entraîneur.
Ocampos, erreur de casting, Patrick. Qui c'est qui le demande?
Non, pas erreur de casting.
C'est qui? C'est bien ça. Mais Ocampos, on l'a jamais vu bien jouer. Il a acheté combien il a acheté?
Il est prêté. Quand tu le vois rater ce contre Lorient, c'est sûr, ça aurait pu tout changer.
Combien il est prêté?
Non, mais par contre, il y a quand même certaines réalités dans le football. C'est qu'avant d'attaquer, il faut récupérer le ballon. Tu peux mettre 9 attaquants. Et si t'as un milieu de terrain et Mandanda derrière, tu marqueras pas un but. Il faut récupérer la balle, il faut faire courir l'adversaire. Moi, je regrette se faire jongler un milieu de terrain par des mecs que tu savais même pas qu'ils étaient joueurs de foot de Lorient. Ça fait mal, quoi. Avant d'attaquer, il faut récupérer le ballon et savoir le conserver.
Il le connaît, il met pas que des sacs,
c'est la base.
Je vais te dire un truc, quand tu joues au jeu de l'entraîneur, quand t'es mené, tu mets tout le monde à l'attaque et tout, et tu gagnes. Donc moi, je comprends Marcelo Bielsa. Vous jouez pas au jeu de l'entraîneur. Donc,
viva Marcelo.
Morel avant-centre l'an prochain. Allez, s'il est conservé.
À Lorient,
À Lorient. Elle remarque les attaquants de Marseille, ils marchent à peu près à Lorient.
C'est vrai.
Du moins contre leur ancien club. Allez, 1h40, on s'arrête là. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. Une Nouvelle France. On se retrouve lundi prochain.
À plus.
Pour de nouveaux résultats sportifs. Ciao, ciao.
Bye
ciao.
Bye.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Vous t'avez dit apéro?
La qualification pour la demi